Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Nicolas Sendé, mais aussi Margot Leridon et Bertie Bourdon. Réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Valentin Bobinet. Troisième volet de notre série donc consacrée à la gouvernance mondiale, après avoir parlé de l'Assemblée générale des Nations unies lundi, puis de l'OMC hier. Place à la biodiversité et à l'urgence d'accélérer sa préservation alors que toutes les études pointent son inquiétante dégradation. Biodiversité, l'Arche de Noé à la dérive, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Ce qu'on pensait être la normalité nous a entraînés vers un désastre économique et sanitaire. Cela nous a entraînés au bord de l'effondrement. Nous savons désormais que nous ne pourrons pas retourner vers cette normalité. Nous devons reconstruire en mieux et nous devrons prendre du temps pour les milieux naturels. La biodiversité est au fondement de la santé humaine et c'est un pilier pour notre résilience et l'équité intergénérationnelle de nos sociétés. Sa perte pose un risque fondamental pour notre santé et les écosystèmes durables qui soutiennent notre environnement. 2020 peut faire office de moment charnière pour notre rapport à la nature. Prendre du temps pour l'environnement naturel, c'est établir des modèles de gouvernance nationaux et internationaux fondés sur des droits et devoirs qui reconnaissent de manière explicite le fait que l'avenir de l'humanité, la croissance économique et la nature sont totalement dépendants les uns des autres.
Cette voix qu'on entendait, c'était celle d'Elisabeth Mrema, la secrétaire exécutive de la Convention sur la biodiversité biologique. Alors que la pandémie de Covid-19 accapare l'attention des chefs d'État et de gouvernement, il apparaît plus essentiel que jamais de ne pas laisser à la marge les autres thèmes décisifs pour l'avenir de l'humanité, au premier rang desquels la biodiversité. L'urgence est d'autant plus grande que l'effort déployé jusqu'ici est assez largement insuffisant, comme le déclarait récemment le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui rappelait qu'entre 2011 et 2020, ces efforts n'ont pas permis d'atteindre la plupart des objectifs fixés à Aichi, au Japon, par les parties à la Convention sur la biodiversité biologique, sur la diversité biologique. C'était en octobre 2010. Un constat confirmé par un récent rapport de WWF, il mentionnait notamment qu'entre 1970 et 2016, 68% de la faune sauvage avait disparu, principalement à cause de l'activité humaine. À en croire les scientifiques, la dégradation de la nature est d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors comment comprendre cet échec collectif? Pourquoi, depuis le sommet de la Terre de Rio en 92, on peine à protéger la biodiversité? Peut-on espérer que l'on s'y mette enfin? La COP15, prévue au printemps prochain en Chine, peut-elle enclencher une nouvelle dynamique? Comment remettre le vivant au cœur de notre projet civilisationnel? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Alexander Rankovic. Bonjour.
Bonjour Florian.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Vous travaillez notamment sur ce rendez-vous très important dont on va parler, qui va se dérouler en Chine, cette COP15. Vous avez co-écrit un ouvrage sur ce sujet qui est l'Atlas de l'Anthropocène qui était paru aux presses de Sciences Po l'année dernière. Cette COP15, donc la 15e session de la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, aurait dû se tenir en octobre prochain, donc le mois prochain. Finalement, elle va être repoussée en mai prochain pour cause de Covid, évidemment. C'est vrai que la biodiversité était déjà un peu le grand oublié des sommets internationaux. On parle beaucoup de climat, pas toujours avec succès d'ailleurs, mais la biodiversité encore moins. Est-ce que vous avez peur qu'avec cette crise sanitaire, elle soit encore reléguée, cette biodiversité?
Le risque existe, évidemment. Ce serait une méthode couée que de se dire que tout va revenir à l'agenda comme c'était construit. Mais il y a des raisons d'espérer et il faut faire en sorte, en tout cas, de continuer d'attirer l'attention sur ce rendez-vous majeur. Mmh. Et je pense que les États qui sont ambitieux pour cette COP mettent tout en œuvre, en tout cas autant que possible, pour essayer d'organiser, de réorganiser la séquence qui s'ouvre pour qu'elle revienne. En tout cas, que ce rendez-vous soit évidemment bien épinglé comme un moment majeur du multilatéralisme environnemental l'année prochaine.
Donc c'est important de continuer à mobiliser les États. Il va y avoir un rendez-vous à la fin du mois, là, sous l'égide des Nations Unies. Mmh. C'est pas le grand rendez-vous du printemps prochain, mais il y a un petit sommet international, un sommet international à l'ONU sur la question de la biodiversité. C'est important de garder tout le monde mobilisé.
Tout à fait, et c'est un peu, j'ai envie de dire, l'objectif principal. Finalement, est-ce qu'on peut en attendre de plus et de plus intéressant? Il risque d'y avoir une série d'engagements assez généraux, des déclarations d'ambition en tout cas, pendant le sommet. Mais je dirais que dans la séquence que vous décrivez, avec l'enjeu plus général de continuer de garder très haut à l'agenda ce sujet, ce sommet, c'est sa fonction première, j'ai envie de dire. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça rouvre une séquence.
Et ce sera quoi les enjeux du grand prochain rendez-vous, qui est celui qui va se dérouler en Chine, qui est la COP15?
Il y a, pour le dire de manière très simple, il s'agit pour la gouvernance internationale de la biodiversité de se renouveler et de rentrer un peu dans l'âge de maturité. Ça fait très longtemps déjà, puisqu'on on est à la fin de la deuxième décennie d'engagement très fort, hein. On avait eu des objectifs 2010 qu'on n'avait pas du tout atteints, et vous avez rappelé la COP de Nagoya en 2010 qui avait pris acte de cette première phase et de l'échec de cette première phase et qui avait voulu développer un nouveau plan stratégique pour 2020 avec toute une série d'objectifs. Et on vient, donc vous avez évoqué, il y a un certain nombre de rapports, et il y a un rapport officiel de la Convention sur la diversité biologique publié la semaine dernière et qui faisait encore une fois ce constat très dur, qui était qu'aucun des objectifs n'avait été atteint.
Et donc, à quel point on n'a pas atteint les objectifs, justement, de cette décennie? Aucun objectif n'a été atteint. Très bien.
Même les objectifs procéduraux, on va dire, n'ont pas été atteints.
C'est-à-dire?
Le développement d'outils nationaux, etc., tout le monde ne l'a pas fait. Sur les objectifs de moyens, on n'y est pas. On n'a pas mobilisé les financements qu'on devait mobiliser pour atteindre les objectifs. Et puis sur des objectifs, on va dire, plus de substance, on est aussi très très loin du compte.
Beaucoup d'observateurs, Alexandre Darankovic, disent que si on a échoué, c'est en partie parce que on n'a pas mis en place les outils de suivi. Qu'est-ce qui a posé problème sur cette question du suivi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger la chose?
C'est tout à fait vrai, c'est au moins une partie du problème. Jusqu'à présent, dans le monde de la biodiversité, pour schématiser, on prenait des objectifs et puis on se donnait rendez-vous dans 10 ans pour voir si on avait réussi, avec finalement très peu de suivi. Très peu de moments où les États se rendent des comptes, vérifient si effectivement ils sont bien sur la trajectoire. Ce qui est important pour la discussion politique entre les États, mais c'est aussi très important pour les acteurs de la société, puisque c'est des moments où ils peuvent aussi se saisir de tous ces rapports, ces discussions, et pour préciser leurs revendications et mettre plus de pression. Tous ces moments-là intermédiaires très importants, c'est ce qu'on a réussi pour le climat, en tout cas dans l'architecture qu'on a posée pour l'accord de Paris, c'est-à-dire d'organiser ces moments politiques chemin faisant jusqu'aux objectifs. Ça, on l'avait pas du tout pour la biodiversité. Et donc,
est-ce que ça suffira d'en mettre en place dans la prochaine décennie? Parce que honnêtement, on se dit, voilà, on va là en Chine l'année prochaine prendre de nouveaux objectifs pour la décennie. Rendez-vous en 2030. Et puis on aura peut-être quelques rendez-vous. Et puis à la fin, on dira, en fait, les objectifs qu'on s'était fixés, on les a pas atteints. Puis terminé.
Non, de manière générale, et je pense que ça vaut en fait pour tous les résultats qu'on va avoir à la COP15, mais c'est vrai pour tous les aspects de gouvernance internationale, hein, entre nous, c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a besoin de consolider ces outils-là et ces dispositions, on va dire, institutionnelles pour se donner les chances de faire le travail. Mais sans des transformations plus profondes et sans l'utilisation aussi de ces outils, en fait, hein, par les autorités environnementales dans leur pays, mais aussi par les acteurs qui puissent s'en saisir, et puis sans changement structurel de plein de choses dans les économies, dans les sociétés, non, on n'y arrivera pas. C'est des briques très utiles, mais qui sont un ingrédient dont on a vraiment besoin, mais qui ne fait pas toute la recette.
Essayons de voir quels outils pourraient être sollicités. Prenons un exemple très concret. L'un des objectifs très très importants dans ce monde de la biodiversité, c'est d'atteindre les 30% de zones protégées pour les territoires terrestres et pour les territoires marins. Je crois que pour l'instant, on est quand même assez loin du compte. Je ne sais pas quelle est la moyenne exacte, mais on est encore loin du compte. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour aider les pays qui sont peut-être de très bonne volonté pour atteindre cet objectif qui est atteignable, enfin a priori on se dit c'est pas
alors le je pense il faut il est atteignable mais il faut se méfier du chiffre et du quantitatif. Déjà première alerte, et ça c'est ce que les scientifiques et puis les ONG martèlent très souvent, et les États sont aussi engagés là-dessus, il y a la quantité, il y a la qualité sur les aires protégées. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 30% de parcs, mais si en fait ce sont des passoires et que finalement ça ne change rien d'avoir le statut de parc, vous ne réglez pas beaucoup le problème. Il y a aussi des questions de configuration spatiale. Vous pouvez avoir 30% mais qui sont relativement bien connectés, etc., qui peuvent permettre aux espèces effectivement de se déplacer. Vous pouvez avoir des configurations spatiales qui n'aident pas aussi à résoudre le problème. Donc il y a des aspects techniques, mais aussi de mise en œuvre concrète de ce que veut dire un parc. Le jargon dans l'anglais, on appelle ça parfois des paper parks, des parcs qui sont des parcs
théorique,
de papier,
ouais.
Des parcs de papier. On les décrète, mais ensuite derrière, ce sont des passoires où les activités peuvent continuer. On va continuer d'ouvrir des mines à l'intérieur, etc. Ou alors même faire de l'agriculture ou de la foresterie intensive. Donc déjà, il y a ce souci, mais en creux, ça répond un peu aussi à votre question sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Il y a toute une série de progrès à faire, et là, les pays peuvent aussi s'aider les uns les autres par de la coopération technique, financière aussi, des développements législatifs, pour essayer de faire en sorte que les statuts de protection soient un peu renforcés et que les parcs deviennent un peu plus des vrais parcs.
Mais il y a des modèles en la matière, pardon de vous couper, est-ce qu'il y a des pays qui sont à regarder parce qu'ils sont parvenus à atteindre des seuils intéressants en termes de surface, mais aussi de qualité de préservation?
Mais je pense que par exemple le réseau Natura 2000 en Europe est intéressant là-dessus. C'est-à-dire qu'on a quand même quasiment 30% en fait de la surface de l'Union européenne qui a des statuts de protection. Il est intéressant à la fois pour les succès et ce que ça peut raconter. Voilà, par exemple, on n'est pas très loin. En France, on a en Seine-Saint-Denis des zones Natura 2000, donc en milieu urbain très dense, ça va réussir quand même à faire des parcs urbains qui sont intéressants pour la biodiversité. C'est pas rien, vu la pression foncière qu'on a autour. C'est aussi des cas d'apprentissage intéressants sur les défis qu'il peut y avoir en termes de compétition, justement, avec tous les autres usages qu'il y a autour et les conflits qu'on peut connaître. La mise en œuvre de Natura 2000 en France, ça a été très compliqué. Il y a eu d'âpres débats au début des années 2000. Et c'est ça, finalement, je pense, la réponse de fond à votre question initiale. C'est que les 30% en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut dire qu'il faut prendre de la place sur autre chose, sur d'autres types d'activités qu'on va accepter de mettre de côté pour laisser ce territoire, en fait, à la biodiversité. Donc ça veut dire, eh bien, il va falloir affronter peut-être certaines pratiques agricoles pour les 30% terrestres ou forestières, ou dire non à des infrastructures, etc. Donc il va falloir trouver des compromis avec évidemment tous les rapports de force et les asymétries de pouvoir qui vont souvent derrière. Et pour le marin, c'est un des sujets, c'est même peut-être plus difficile encore, les 30% marins, parce que vous avez des intérêts économiques extrêmement puissants autour de la pêche, par exemple. Et là, pareil, qu'est-ce que ça veut dire de décréter 30% de sa zone économique exclusive en aire protégée? C'est pas encore complètement clair dans les négociations si le 30% doit aussi s'appliquer à la haute mer. Et là, en fait, vous rentrez aussi sur des questions presque de nature géostratégique, hein, puisque il y a beaucoup de zones qu'on pourrait mettre dans les 30% qui sont faites des zones de conflits quasi militaires entre différentes puissances. Donc vous heurtez, en fait, et c'est ça, c'est que la réalité du reste du monde, c'est-à-dire que le problème, il est moins dans les 30%. C'est très important, c'est important comme outil, les aires protégées, etc. L'enjeu principal, il est dans les 70% restants. Et si on veut réussir à avoir 30% déjà en quantité et puis en qualité, en fait, c'est qu'il faut agir sur tout le reste en fait du territoire, et ça, c'est des transformations qui touchent tous les secteurs économiques en fait.
Vous avez parlé de l'agriculture, on va essayer d'en parler dans un instant, mais pour poursuivre un tout petit peu, alors j'entends que les 30%, c'est pas forcément, en tout cas, il faut pas rester sur le chiffre, même si précisément, on va beaucoup s'attarder sur le chiffre quand on va en discuter en Chine. C'est l'un des points de négociation. Où est-ce qu'on met justement le curseur? Vous disiez en Europe, on a fait des choses pas mal avec Natura 2000, on peut entendre, même si c'est compliqué, disiez-vous, c'est déjà compliqué pour nous ici en Europe. On imagine pour des pays en développement, pour des grands pays pour qui il y a des impératifs économiques et sociaux, que c'est encore plus difficile. Prenons un pays par exemple comme la Chine, qui est en train aujourd'hui d'urbaniser massivement son territoire, qui a besoin de développer son réseau autoroutier, son réseau ferroviaire, son réseau électrique, etc., qui est pas franchement prêt à faire des concessions sur ce point-là, mais qui en même temps est tout à fait conscient qu'il y a besoin effectivement d'une véritable inflexion pour mieux préserver l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut attendre très concrètement de la Chine? C'est elle qui va, l'année prochaine, accueillir cette grande messe de la biodiversité. Jusqu'où est-ce qu'elle peut faire des compromis, justement, sachant qu'on a évidemment des impératifs économiques et sociaux qui sont fondamentaux?
C'est une question fondamentale parce que, notamment pour une échéance de cette importance, le type de présidence qu'exerce le pays hôte, et peut être assez déterminant, tant dans les propositions que le pays peut faire que dans son travail d'accompagnement de la négociation. Et donc le contexte, j'allais dire chinois domestique, et à quoi est-ce que la COP peut servir en interne, et donc quels sont aussi les intérêts qui poussent, il faut essayer de le comprendre. La Chine fait des choses intéressantes en termes de politique de biodiversité. Ils sont en train de développer tout un travail de planification en fait de zones. Donc c'est ce qu'ils appellent l'ecological redlining, pour utiliser le jargon, où il s'agit de délimiter, ils sont quasiment à 30% du territoire, les zones qui vont mettre de côté en disant là, on ne fait plus, on touche plus, ou très légèrement, ou avec des pratiques d'agroécologie par exemple, mais on fait pas d'agriculture intensive, céréalière, etc. Les infrastructures, c'est au compte-gouttes, etc. Et donc,
la qualité de cette préservation est au rendez-vous.
En fait, on n'est pas encore au niveau de la mise en œuvre. C'est ça le souci. Et dans ces discussions, c'est un des points importants. C'est que pour l'instant, il y a une volonté de faire ça. Et le ministère de l'écologie et de l'environnement chinois met beaucoup d'efforts. C'est très impressionnant. Hein. C'est énormément de technologies et de cartographie et de systèmes géographiques satellitaires en fait qui sont utilisés pour faire ce travail, avec énormément de négociations à l'œuvre avec les autorités locales pour faire le tracé plus fin, on va dire, qui correspond aussi aux aspirations des villes ou des provinces. Mais effectivement, c'est vous pointez à un point très important, c'est qu'un enjeu à venir, ça va être la mise en œuvre de cette planification-là. Mmh. En sachant qu'en parallèle, vous avez la planification de l'espace urbain et de l'espace agricole qui, eux aussi, ont leurs propres impératifs. Et à un moment donné, tout ça va devoir être arbitré. Mmh. Et donc, c'est vrai que pour... il y a quelque chose de très intéressant au-delà de l'initiative chinoise, c'est que cette question de la planification spatiale, on y est rentré déjà avec les 30%. Hein. Finalement, la question de combien de place on laisse à la biodiversité sur nos territoires, dans la mosaïque d'activités dont en fait on a besoin. Il y a beaucoup d'aspirations légitimes aussi, à avoir des infrastructures, à avoir plein de choses. Ça, c'est des outils qui manquent dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est-à-dire que c'est assez anarchique la manière dont on va développer les activités. Et ce zonage, il n'existe pas. Et c'est vrai que pour les autorités environnementales chinoises, avoir une planification spatiale où l'importance de ces outils mis plus en avant dans le résultat de la COP15, ça peut aussi les renforcer dans les arbitrages qui les attendent par rapport à leurs chers collègues des autres administrations et puis du monde économique. Mais en plus, ça peut peut-être aussi aider à résoudre le problème. Donc sur des aspects, c'était juste pour vous illustrer qu'il y a des aspects techniques comme ça où la Chine peut avoir un apport intéressant. Il y a...
Je vous en prie.
Ouais. Et, mais donc ça, c'est, voilà, c'est le type de choses qu'une donc le essayer de contribuer par ses propres exemples et son expertise à résoudre des problèmes qui sont en fait généraux et qui touchent tout le monde. Ça, c'est le type de contribution intéressante qu'on peut attendre d'une présidence comme celle de la Chine. Et il y a tout un tas d'aspects politiques dont, sur lesquels on a aussi besoin d'eux.
Au-delà du cas de la Chine, pardon, Alexander Rankovic, il y a dans les négociations sur le climat toujours cette opposition, je schématise, mais qui est à peu près celle-là, entre d'un côté des pays qui considèrent que tout le monde aujourd'hui doit faire les mêmes efforts parce que nous sommes tous concernés, que nous avons tous en commun des biens à préserver, et puis de l'autre, des pays qui considèrent qu'ils ne sont pas encore développés, qu'ils n'ont pas atteint les premiers, qu'il y a une dette écologique, et que donc il est bien naturel que eux ne soient pas traités de la même manière. Et qu'ils aient au fond plus de marge de manœuvre. Est-ce que c'est une opposition qui se retrouve à peu près dans les mêmes termes s'agissant de la question de la biodiversité, ou est-ce qu'elle se formalise différemment?
Les termes généraux sont très similaires. Le fait que vous avez, et notamment, enfin, c'est écrit par exemple même dans l'article 20 de la Convention, ce sont les pays développés qui doivent financièrement le plus contribuer à aider l'ensemble des autres pays, notamment en développement, à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Et donc dans les grandes lignes, alors les grands groupes de négociations, les grandes coalitions sont pas exactement les mêmes, on suit pas exactement les mêmes tracés que dans le monde climat.
Qu'est-ce qui peut bouger par exemple?
C'est-à-dire bouger.
Quels sont les pays qui peuvent passer d'un camp à l'autre, si je puis dire, en fonction de si on parle du climat ou si on parle de la biodiversité?
Non, je pense que dans les grands blocs, vous allez avoir vous avez, pour le schématiser vraiment très grossièrement, vous avez une espèce de grande opposition Nord-Sud, notamment sur ces questions d'équité, de moyens différents, etc. Par contre, vous avez quand même des choses différentes, puisque vous avez notamment tout un ensemble de pays méga divers qui en fait sont plutôt des pays en développement, et donc qui en fait en termes de poids et de responsabilité sur une part extrêmement importante de la biodiversité, eh bien ils sont en position de force en disant écoutez, vous êtes, disons qu'ils ont un peu plus de levier pour dire énormément, une grande part du problème est chez nous, et on est responsable de ces ressources-là. Donc quelque part ils ont déjà un poids diplomatique, une autorité, une crédibilité qui peut être plus forte que ce que vous pouvez trouver dans les négociations climat, par exemple.
Alexander Rankovic, on est évidemment dans une crise sanitaire majeure qui découle d'une crise au fond de la biodiversité. On en a énormément parlé depuis l'émergence du Covid-19. Pour réparer les économies qui ont beaucoup été mises à mal pendant cette crise, les pays ont mis en place des grands plans de relance économique. Est-ce qu'il vous semble que dans ces plans, on a véritablement pris conscience, précisément, de cette crise de la biodiversité, que d'une certaine manière, on a tiré les leçons de tout cela? Quand on regarde les domaines dans lesquels on a investi, les secteurs dans lesquels on a investi, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, on est sur des plans de relance, alors j'irai pas jusqu'à dire vert, durable, parce que faut pas rêver, mais est-ce qu'il y a quand même eu une évolution? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on subventionne moins les secteurs très carbonés, qu'on a mis le paquet globalement sur les secteurs plus respectueux de l'environnement, ou est-ce qu'il vous semble que cette crise sanitaire-là et donc la relance économique qu'il y a eu derrière n'a absolument pas tiré le son de tout ça?
Alors c'est délicat de proposer une vue d'ensemble sur les plans de relance.
Prenons l'Europe, par exemple. Différents.
Il y a des avancées. C'est pour le dire comme ça, c'est qu'il y a de manière assez simple. On peut voir des avancées, notamment dans la prise en compte, dans l'affichage, dans le fait qu'il y aura des garanties, dans le fait de mettre des moyens importants, comment dire, fléchés sur la transition écologique. Du point de vue de la biodiversité, et là c'est intéressant de revenir quand même au cœur du problème. On sait que c'est la destruction des habitats, par la l'agriculture intensive ou ce qu'on peut appeler l'artificialisation, le développement d'infrastructures, qui est quand même la cause majeure de perte de biodiversité au niveau mondial. Vous avez aussi les pollutions agricoles, etc. Et du coup, une réforme assez profonde, drastique des modèles agroalimentaires est ce qu'il faudrait vraiment mettre en œuvre pour s'occuper et commencer à régler une bonne part du problème. De ce point de vue-là...
C'est un échec.
C'est pas que c'est un échec, mais c'était vraiment c'est le parent pauvre quand même des plans de relance. C'est-à-dire comment la réforme agricole dont on a besoin pour... rappelons ça de l'agroécologie ou de l'agriculture durable, tous ces termes de toute façon sont aussi contestés dans ces arènes. Il y a plein de définitions, mais développer une agriculture, déployer une agriculture qui soit plus respectueuse et plus compatible avec la biodiversité, qui préserve les sols, qui a des paysages plus divers, qui soit moins, orienté vers la production animale aussi, puisque c'est une quantité de ressources gigantesques, et notamment d'habitats qu'on détruit pour la production animale. C'est un énorme virage dont on a besoin pour être à la hauteur du sujet.
Et on l'a pas pris, on n'a pas profité de cette crise, on n'a pas profité de l'argent des États mis sur la table pour ces plans de relance, pour essayer d'accompagner cette mutation qui est essentielle, vous avez raison.
Mais pas suffisamment, non.
Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Parce que on sait combien justement cette transformation de notre modèle agricole est décisive. On sait combien c'est difficile. Il faudrait des moyens. Par ailleurs, les agriculteurs précisément sont souvent dans des situations de grande précarité. Donc, c'est évidemment une transformation qu'il faut accompagner et accompagner avec des moyens. Et on le fait pas.
C'est une excellente question et c'est une question qu'on pourrait faire énormément d'émissions juste sur ce point-là, parce que une manière de le dire en prenant un petit peu de recul, c'est qu'on a depuis longtemps, mais surtout depuis l'après Deuxième Guerre mondiale, orienté, et c'est le cas en Europe évidemment, toute notre politique agricole vers un modèle productiviste, toute notre, j'allais dire même notre recherche et développement, nos sciences agricoles sont orientées là-dedans, les financements, les emprunts, etc. qu'ont fait les agriculteurs, la structuration des interprofessions, etc. Et au niveau mondial, nos chaînes de valeur aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que même les marchés mondiaux sont organisés là-dessus. Autour de ça, on cherchait encore à beaucoup exporter. Défaire tout ça. On ne peut pas amorcer le virage et on peut évidemment c'est malheureux parce que là on avait une occasion de se dire allons-y, mais les rapports de force sont toujours là, toutes les filières qui sont structurées, les syndicats agricoles majoritaires portent des positions qui ne sont pas forcément toujours très compatibles avec des transitions brusques. Et on le voit bien. Et en fait, si vous prenez une image très macro, je trouve que les travaux de l'OCDE sur les subventions néfastes à la biodiversité sont intéressants pour nous donner un ordre de grandeur.
Qu'est-ce qu'il révèle?
Le rapport qu'a sorti l'OCDE l'année dernière au moment du G7 français indiquait, et c'est une estimation basse, qu'on est à 500 milliards de dollars par an de subventions néfastes à la biodiversité. Une bonne part, c'est les énergies fossiles. Et une bonne part, c'est les activités agricoles potentiellement néfastes à la biodiversité. Et donc, on est encore, si vous voulez, dans un système où on encourage massivement avec de l'argent public des modèles agricoles qui sont, et ça fait plusieurs décennies qu'on le fait, avec tout un tas d'effets d'inertie qu'il n'est pas évident de défaire, même en quelques années. Et donc, ce qui se joue, et c'est
pas évident aussi, parce qu'il y a un coût politique, parce qu'il y a évidemment derrière des conséquences sociales. Regardons par exemple ce qui s'est passé en France avec la réautorisation temporaire des néonicotinoïdes, qui est un insecticide extrêmement violent. Ouais. On l'a réautorisé pour préserver la filière sucrière française. Point. Ouais, et donc des emplois.
Tout à fait. Et donc vous tombez sur ces enjeux, mais c'est les mêmes. Et donc c'est des enjeux qui en fait, comme le climat, on a ce qu'on appelle un peu dans le jargon la transition juste. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir planifier la transition et voir la fin, en fait, pour le dire très, très clairement, de secteurs économiques entiers. Et ça doit se planifier sur 10, 15 ans. Et c'est vrai que sur, je pense que sur le climat, on a mûri un petit peu quand même là, au niveau de la conversation. On comprend de plus en plus qu'il faut organiser, que si on veut sortir du charbon, il suffit pas de dire on sort du charbon. Il y a tout ce que vous dites, faut accompagner, faut trouver comment trouver de nouveaux emplois pour tous les employés de ces industries-là. Pour la biodiversité, on commence, je pense, à peine, et c'est pour ça qu'on rentre un peu aussi dans l'âge de maturité, je trouve. C'est-à-dire qu'on commence à peine à comprendre que c'est des enjeux de nature tout aussi systémique et qu'il faut en fait prendre des virages à 10-15 ans. Et en creux, pour vous dire honnêtement, c'est un peu ce qui se négocie en fait pour la COP 15. C'est-à-dire que les gens qui discutent de ces sujets-là et les négociateurs ont tout à fait conscience que ce qu'ils essayent de poser, c'est une vision de transformation à 17, même 30 ans.
On était avec vous, Aleksandar Rankovic, dans cette semaine consacrée à la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, on parle de biodiversité dans le domaine, par exemple, de la protection des forêts. On s'est rendu compte que la démarche purement préservationniste, avec justement des aires protégées, comme on l'évoquait, n'était pas toujours efficace. Et donc, à partir des années 2000, on a adopté une autre posture, une autre philosophie, d'une certaine manière, qu'on rassemble sous un acronyme, ça s'appelle PSE, paiement pour services écosystémiques. En gros, il s'agit de donner une valeur monétaire à un environnement pour pouvoir compenser financièrement sa protection. Et il y a un pays qui a été particulièrement pionnier en la matière dans ses PSE, c'est le Costa Rica. On en parle dans un très court instant.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Mes réponses sont pas trop
longues. Tout au long de son histoire démocratique, le Costa Rica a pu tirer parti de ses réussites en termes de bonnes pratiques politiques. C'est pour cela que nous disposons d'un enseignement public depuis 130 ans, que cela fait pratiquement 80 ans que nous disposons d'un système de santé publique, que nous n'avons plus d'armée permanente depuis plus de 70 ans, que nous produisons de l'énergie renouvelable depuis 65 ans, que nous encourageons la reforestation depuis 50 ans, que cela fait 30 ans que nous réalisons des paiements pour la prestation de services environnementaux et que nous sommes depuis plus de 25 ans une destination touristique centrée sur ces milieux naturels.
Voilà, donc le président costaricain Carlos Alvarado Quesada, pour qui le PSE, le paiement pour services environnementaux ou écosystémiques, eh bien, est l'un des ingrédients du succès de son pays. Bonjour Marie Rabansky.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse en sociologie politique au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Ça fait longtemps que le Costa Rica a opté pour cet outil qui est le PSE, paiement pour les services écosystémiques. Or, c'est un pays dont on dit très souvent aussi qu'il a un extraordinaire écosystème qui est même devenu au fil des ans son principal atout pour attirer les touristes. Le tourisme qui est une manne financière colossale pour le pays. Jusqu'où est-ce qu'il faut relier la richesse du vivant du Costa Rica à l'utilisation précisément de cet outil qu'est le PSE, le paiement pour les services écosystémiques?
Ouais, déjà, il faut essayer de bien comprendre ce qu'est ce paiement pour services environnementaux. Services environnementaux, après on l'a appelé services écosystémiques un peu plus tard. Paiement pour services environnementaux, en fait, au Costa Rica, puisent leur origine dans le problème de la déforestation. Je vais vous donner quelques chiffres. En 1940, au Costa Rica, 75% du pays est couvert de forêts. C'est ce qu'on appelle la couverture forestière. En 1987, soit une dizaine d'années avant la mise en place des ces fameux paiements pour services environnementaux, eh bien, le Costa Rica est à son plus bas niveau historique puisque on compte une superficie, une couverture forestière de 21%.
C'est le taux de déforestation le plus élevé au monde à l'époque, hein.
Exactement, oui, ouais. Tout à fait. Alors, ce qu'il se passe à cette période-là, donc au début des années 90, eh bien, il y a d'abord l'élection d'un nouveau président, José María Figueres, qui au cours de sa campagne va faire de l'environnement et du développement durable l'un de ses thèmes politiques majeurs. Et il introduit très rapidement son idée de paiement pour services environnementaux, l'idée de paiement pour services environnementaux, afin de souligner la valeur des apports fournis par les écosystèmes naturels et la nécessité de rémunérer justement ces services. Un second élément qui va pousser un peu l'émergence de ces fameux paiements pour services environnementaux au Costa Rica, c'est d'une part la ratification par le Costa Rica de la Convention climat. Mmh. Et puis, en 95, cet troisième événement majeur est le suivant. Le Costa Rica et le Fonds monétaire vont signer un accord qui interdit au Costa Rica de soutenir, de fournir des subventions publiques à son secteur forestier. Et donc, il faut passer absolument d'une logique de soutien public à une autre forme de soutien qui va être basé sur une rhétorique d'instrument de marché. Et c'est donc dans ce contexte-là que les paiements pour services environnementaux vont émerger. Très concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, dans un paiement pour service environnemental, vous avez une transaction entre des fournisseurs d'un service environnemental qui, au Costa Rica, vont être des propriétaires forestiers, donc ces propriétaires qui détiennent des forêts, et qu'on va rémunérer parce que leurs forêts, et donc à travers eux, ces forêts, ces propriétaires forestiers, eh bien, fournissent des services environnementaux, et notamment des services de séquestration du carbone, des services d'approvisionnement en eau, de biodiversité, même de beauté scénique, puisque les forêts, oui, c'est aussi beau.
Marie Rabanski,
il va y avoir une transaction.
Il y a cette transaction. Pour qu'il y ait une transaction, il faut de l'argent, il faut financer tout ça. Très concrètement, pour le cas du Costa Rica, comment est-ce qu'on finance ces fameux paiements pour services environnementaux?
Alors, au Costa Rica, c'est tout à fait intéressant. Plus de 60% des financements proviennent d'une taxe sur les hydrocarbures, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un costaricien met du gasoil à la pompe, une partie de la facture permet de financer les paiements pour services environnementaux. Également, on a à peu près 25% de prêts internationaux, notamment de la Banque mondiale.
Est-ce que ça peut marcher partout, Marie Rabanski? J'ai une partie de la réponse, puisque pour avoir lu l'ouvrage auquel vous avez participé, Les services écosystémiques, repenser les relations nature et société, je sais bien que ça marche pas partout. Par exemple, à Madagascar, on a tenté et ça a échoué. Pourquoi ça n'a pas marché à Madagascar? Et au fond, quelles sont les conditions qu'il faut rassembler pour que ça fonctionne?
Alors, à Madagascar, on est vraiment sur un pays, il y a un pays à forte biodiversité et à faible PIB, et surtout un pays qui se caractérise par une instabilité politique assez forte, et dans lequel les acteurs de la conservation et du développement sont particulièrement prépondérants, c'est-à-dire que les bailleurs extranationaux, je pense à la Banque mondiale, mais aussi à l'AFD, et puis surtout les grandes ONG de conservation comme WWF, Conservation Internationale, TNT, les grandes ONG de conservation américaines sont extrêmement présentes. Et donc, en effet, on a essayé de développer des paiements pour services environnementaux via ces grandes ONG de conservation. Et en effet, le résultat n'est pas très probant. La surface forestière continue de diminuer au Costa Rica. C'est une diminution de 1,1% par an. C'est
énorme. À Madagascar, vous voulez dire.
Ouais. Et en termes de biodiversité, c'est vraiment extrêmement mitigé. Ça s'explique notamment par ces faibles capacités de l'État à pouvoir encadrer la mise en place de ces paiements pour services environnementaux. Parce que ces paiements pour services environnementaux, on en a vraiment fait un exemple emblématique d'instruments de marché plus efficaces, plus efficients que les instruments de type réglementaire. Mais les contextes politiques, géographiques, écologiques interviennent forcément dans la mise en place de ces paiements pour services environnementaux. Si on reprend l'exemple costaricien, on voit bien qu'il y a bien un organisme étatique, para-étatique, qui est chargé de prélever la taxe sur les hydrocarbures. L'État malgache n'en est pas ou pas forcément capable. De même, si on prend l'exemple du Brésil, le modèle des PSE a été également diffusé au Brésil par les acteurs internationaux, la Banque mondiale, des ONG de conservation américaines, et il s'est trouvé confronté à d'autres visions, en particulier celle des mouvements sociaux liés à l'agriculture familiale. Les paiements pour services environnementaux pour les acteurs de l'agriculture familiale au Brésil, c'était des outils qui devaient avant tout servir les objectifs de développement de l'agroécologie et pas ou pas seulement des objectifs d'augmentation de la couverture forestière ou de séquestration du carbone. On voit bien une disparité dans la mise en œuvre de ces paiements.
Alexandra Rankovic, peut-être une réaction sur ces PSE qui sont pas l'alpha et l'oméga. On va pas demain régler tous les problèmes avec cet outil dont on dit que c'est un instrument de marché, mais en réalité, il faut peut-être un peu nuancer les choses.
Bah, tout à fait. Bah, le Marie Rabanski, que je salue, l'a très bien expliqué. Derrière une rhétorique un peu marchande, disant voilà, on va pouvoir utiliser la puissance de coordination du marché, etc. Finalement, derrière, 60% des fonds, ben, en fait, viennent d'une taxe. Donc, en fait, on est sur des questions de budget public et de réforme fiscale, etc. On est bien loin de la capacité d'auto-organisation qu'on prête au marché.
Mais c'est pas aussi libéral qu'on veut bien le dire.
Non, en fait, souvent, mais c'est, disons que si on prend un petit peu de recul sur ces débats-là, c'est vrai que, et recul un peu historique, il y a une grande mode à la fin des années 2000 et au début des années 2010 où on pensait trouver une solution au problème de la biodiversité avec des approches économiques visant en général soit à développer des PSE ou alors à monétariser la biodiversité, démontrer qu'elle a une valeur et que quelque part ça allait permettre de l'internaliser dans les activités privées.
On en est un peu revenu.
On en revient parce que ça n'a pas été à la hauteur des promesses. Et puis quand vous étudiez, on va dire empiriquement sur le terrain, vous vous rendez compte que d'une part, on n'est ni dans des configurations qui correspondent à ce que promettent à ce que disent leurs promoteurs, hein, c'est-à-dire c'est le marché qui va faire, ni non plus dans, on va dire les fantômes de ce que dénoncent les critiques en disant ah ça y est la finance va s'en emparer, vont faire beaucoup d'argent avec. En fait non, tout ça reste quand même un petit bout du problème.
Merci beaucoup en tout cas à vous Marie Rabanski d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez contribué à cet ouvrage collectif Les services écosystémiques, repenser les relations nature et société. On mettra évidemment ça en référence sur la page de Culture Monde. Je le disais, en moins de 50 ans le monde a perdu plus des deux tiers de ses populations d'animaux sauvages. C'est en tout cas ce que disait le dernier rapport de WWF, et ces chiffres sont directement liés à l'empreinte humaine sur les habitants des espèces concernées. Mais parfois il y a certaines espèces qui peuvent reprendre un peu du territoire. C'est justement ce à quoi on va s'intéresser maintenant. Alors, je ne vous dis pas l'animal en question, vous allez essayer de le deviner. Voilà, Alexandra Rankovic, vous avez reconnu. Bon, vous savez, je vous ai prévenu avant, il s'agit de bouquetin, et pas n'importe quel bouquetin, le bouquetin ibérique. On va essayer de comprendre comment s'est déployée la collaboration franco-espagnole autour de ce projet de réintroduction dans les Pyrénées du bouquetin ibérique. Bonjour Jean-Paul Cramp.
Bonjour, Michael Delorme.
Bonjour, Florian Delorme, mais c'est pas très grave. Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous ce matin. Vous êtes actuellement membre du conseil scientifique et anciennement chef du secteur du parc national des Pyrénées. Et vous avez créé un livre, justement, sur cette réintroduction du bouquetin ibérique, le bouquetin aux Pyrénées, Odyssée d'une espèce retrouvée. Pour comprendre comment s'est faite cette réintroduction à partir de 2014, suite à un accord entre la France et l'Espagne, mais aussi Andorre, il faut quand même regarder les choses en face et réaliser que les choses n'ont pas été faciles du tout. Jean-Paul Cramp, j'ai relu toute la partie que vous avez dédiée justement à cette difficile négociation que vous avez eue, notamment avec le camp espagnol. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots comment ça s'est passé et nous rappeler en particulier cette fameuse réunion de Saragosse de mars 2012 au cours de laquelle vous allez défendre votre projet de réintroduction, mais qui va s'avérer extrêmement compliqué quand même, Jean-Paul Cramp?
Ah oui, ce jour-là, il s'est passé un véritable coup de théâtre, dans la mesure où je me suis retrouvé à présenter notre projet français de réintroduire le bouquetin dans les Pyrénées à une assemblée de gestionnaires du bouquetin espagnol, plutôt tournée vers l'exploitation de la chasse. Et j'ai très vite compris que ça n'a pas été une surprise pour moi d'ailleurs, que nos propositions ne les emballaient pas vraiment. Et leur réponse a été tout simplement qu'ils ne voyaient vraiment pas pourquoi on devrait réintroduire du bouquetin ibérique dans les Pyrénées alors que cette espèce était abondante partout en Espagne, partout ailleurs, et qu'elle n'était donc pas menacée.
Et puis leur crainte aussi, c'était que vous les réintroduisiez pour ensuite permettre aux chasseurs français d'aller lui aussi chasser le bouquetin.
Voilà, c'est une réaction qui est propre au lobby de la chasse. Donc, le bouquetin est exploité en Espagne pour la chasse au trophée. Il faut, signaler au passage que c'est ce qui a permis de le sauver dans les années 50. Hein. C'est cette vision-là qui a permis de mettre en place des réserves nombreuses et très efficaces qui ont complètement redressé les populations espagnoles de bouquetin ibérique.
Mais donc c'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est le lobby de la chasse espagnole, la Casa Maya en l'occurrence, qui a participé de la protection en réalité de la préservation de cette espèce.
Absolument. Ouais, ouais. Sans la carte Mayor et cette vision de trophée dans les années 50, le bouquetin ibérique aurait sans doute disparu. Mmh. Il faut regarder les choses en face avec tous les paradoxes que ça comporte. Mmh. Le coup de théâtre de la journée, si vous voulez, c'est que à peine j'étais assis sur mon siège que des gens sont venus me demander de sortir. C'était des envoyés du ministère espagnol qui clairement ont manifesté leur désir de procéder à la réintroduction du bouquetin dans les Pyrénées, en dépit de cette volonté du lobby de la chasse espagnole.
Oui, donc c'est donc en fait en réalité le pouvoir de Madrid qui a permis, en tout cas qui a été le catalyseur de cette réintroduction. C'est pas comme on pourrait le penser, au départ en tout cas, une coopération locale.
Non, mais là, si vous voulez bien, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière et présenter les choses un peu plus globalement. D'abord, que sont les Pyrénées ? Il faut bien comprendre que les Pyrénées, pour les humains, c'est une barrière. Les Pyrénées, les crêtes, conditionnent complètement l'occupation par l'homme, depuis la nuit des temps, on va dire. Et évidemment, ça s'est présenté comme une frontière naturelle entre les pays depuis fort longtemps, une frontière politique. Rappelez-vous, Pascal disait déjà au XVIIe siècle, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Depuis l'Espagne, on présente la chaîne des Pyrénées non pas comme une sierra, comme on le fait pour les autres massifs montagneux, on en parle comme d'une cordillera. C'est vraiment le barrage, la barrière absolue. Donc, évidemment, quand on voit la présence de cette frontière administrative au sommet des Pyrénées, on comprend que les Pyrénées sont donc un espace naturel divisé par l'administration des hommes. Mais si on regarde cet espace par l'œil d'un bouquetin, on se rend compte qu'il en est tout autrement. La crête frontière qui sépare la France et l'Espagne, pour le bouquetin, c'est une autoroute de connexion entre les différentes populations. Donc le bouquetin habite le haut des montagnes, alors que l'homme habite à l'extérieur, si vous voulez. Pour le bouquetin, les frontières, ce sont les limites du massif montagneux. Tout ça veut dire qu'on ne peut pas aborder ces questions de biologie et de sauvegarde des espèces sauvages sans considérer au départ que les Pyrénées sont indivisibles. Mmh. C'est un espace, une entité biogéographique indivisible. Mmh. Donc, c'est un long parcours qui s'est opéré, mais je pense que c'est un petit miracle aussi, qu'il faut souligner.
Indivisible dans l'œil du bouquetin, hein, mais dans l'œil effectivement des chasseurs espagnols, ça n'avait pas trop l'air d'être le cas. Mais si on revient, Jean-Paul Cramp, dans le monde des humains, vous racontez dans votre livre, Jean-Paul Cramp, que lorsque vous présentez votre projet de réintroduction aux Espagnols, qui, vous le disiez, est plutôt sensible aux questions cynégétiques plutôt qu'à la question de la préservation, on vous pose inévitablement la question de la surpopulation. Que ferez-vous lorsque les bouquetins seront trop nombreux ? Comment vous répondez à cette question ? Parce que eux, les chasseurs espagnols, évidemment, ils ont une réponse qui est que ils éliminent les quand il y en a trop, voilà, tout simplement, ils leur tirent dessus. Jean-Paul Cramp.
Vous touchez du doigt un problème majeur de la perception du fonctionnement des populations des espèces sauvages aujourd'hui. L'homme qui a une vision un petit peu agricole, d'éleveur par rapport à tous ces animaux-là, le grand gibier surtout, a beaucoup de mal à accepter l'idée qu'il existe pour ces populations des systèmes de régulation très puissants qui dépendent de la densité des animaux sur un espace donné. C'est des choses qui sont maintenant éprouvées, notamment dans les parcs nationaux, comme le parc national des Pyrénées, qui, au passage, a eu l'honneur de porter ce beau projet du retour de bouquetin. Ces populations d'isards ne sont plus chassées depuis 1956. Pour autant, elles n'ont jamais pullulé au-delà de certains niveaux, et puis on voit bien qu'elles continuent à se porter très bien. Donc, en Espagne, plus qu'ailleurs encore, le paradigme de la nécessité de la chasse pour réguler les populations de grands ongulés, notamment, est très difficile à combattre. Donc, justement, en décrivant ce phénomène de régulation naturelle, j'ai eu l'impression de ne pas être du tout entendu ce jour-là. Mmh.
Peut-être encore un mot, Jean-Paul Cramp, parce que on a parlé du bouquetin ibérique, mais on n'a pas parlé du bouquetin des Pyrénées, et pour cause, malheureusement, il a disparu de France depuis très longtemps, et disparu des Pyrénées, du côté espagnol en particulier, depuis une dizaine d'années maintenant. Pourtant, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour essayer de le préserver. Pourquoi est-ce qu'on a échoué ?
Alors, je pense que pour comprendre cette histoire, je m'en suis même rendu compte en écrivant ce livre, il faut contempler toute l'histoire de la protection de la nature. Ça commence au début du 19e. L'homme est un prédateur insensé, il fout tout en l'air. Il ne se pose pas de questions sur la préservation des espèces. Et c'est particulièrement visible en Amérique du Nord, avec 70 millions de bisons qui sont éradiqués de la surface du globe en très peu de temps. Et là, des grands esprits, je dirais, qui ne sont ni des économistes, ni des politiques, ce sont des poètes, des écrivains, des philosophes, élèvent la voix et se font entendre et naissent les premiers parcs nationaux qui, dont la vogue va bientôt débarquer en Europe, et puis on voit bien que c'est une étape essentielle de cette progression. Mais elle ne suffit pas, évidemment, puisqu'elle ne concerne que des espaces très restreints, et la plupart des espèces ne peuvent se contenter d'espaces aussi restreints. Donc, on va arriver à l'étape suivante, qui, à mon avis, est primordiale, c'est la Convention de Rio, qui met sur le devant de la scène le concept de biodiversité. Du coup, là, toutes les espèces doivent être conservées, les utiles, les inutiles et les nuisibles. Donc, c'est un pas très important. Et ce pas-là va faire en sorte que il va être en quelque sorte difficile de ne pas tenter de gommer un petit peu l'effet clivant des frontières. Pour le Bocotin des Pyrénées, dans cette histoire-là, c'est arrivé trop tard, son histoire. Quand l'homme a voulu s'en occuper, vraiment, il était trop tard. Le nombre était trop petit et probablement que pour des raisons diverses, il n'était plus possible de sauver le reliquat de population qui persistait à Ordesa, en Aragon, depuis plus d'un siècle en tout petit nombre. Donc là, vous avez des problèmes génétiques qui se rajoutent aux problèmes de démographie pure, et c'était très tard, trop tard depuis trop longtemps.
Et voilà un exemple qui nous montre qu'il faut absolument, évidemment, se dépêcher. Il y a urgence parce que arriver à un certain niveau, c'est trop tard. Merci beaucoup Jean-Paul Cramp, en tout cas. Et je rappelle le titre de votre livre qui vient d'être publié, Le Bouquetin aux Pyrénées, Odyssée d'une espèce retrouvée. Pareil, on mettra la référence sur le site de Culture Monde.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux.
Voilà, Alexander Rankovic, il fallait au moins ça, hein, pour se reposer, entendre un petit peu les oiseaux qui ont besoin évidemment d'insectes, parce que sinon pas d'oiseaux, d'abeilles, enfin tout ça se tient évidemment. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur l'état de la biodiversité, ce qu'il reste encore à faire, et le chemin est très long pour préserver cette biodiversité. Je rappelle que vous êtes co-auteur notamment de cet atlas de l'Anthropocène qui était paru aux presses de Sciences Po, pareil, à retrouver sur la page de Culture Monde, sur le site de France Culture. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table, mais d'abord, c'est évidemment Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Les économies vont-elles rebondir après l'épidémie sanitaire actuelle? Voilà la question.
Lorsqu'on lance une balle de tennis sur le sol, elle rebondit, écrit Ricardo Haussmann, ancien ministre vénézuélien réfugié à Harvard. Mais lorsqu'on y lance une bouteille, elle s'y fracasse. Du fait des conséquences de la crise du Covid-19, beaucoup d'économies sont en chute libre. Quelles sont celles qui vont rebondir dès l'an prochain? Quelles sont celles qui vont s'y fracasser? Et quels conseils peut-on raisonnablement donner à leurs responsables politiques pour que le premier scénario ait plus de chances de se réaliser chez eux que le second? Haussmann se sert pour formuler ses conseils d'exemples judicieusement choisis dans des crises récentes. La crise des subprimes de 2008, bien sûr, mais aussi celle qui sévit dans les anciennes républiques du RSS après son démantèlement, ou encore la crise de la dette en Amérique latine au début des années 80. Trois facteurs se révèlent, d'après lui, décisifs. L'ampleur du choc économique initial, la résilience dont fait preuve l'économie nationale, et puis surtout les conséquences politiques du choc. Dans le cas de la crise actuelle, d'origine donc, vous l'avez dit, sanitaire, il s'agit d'abord des conséquences des mesures prises pour prévenir la propagation de l'épidémie sur le marché de l'emploi. Lorsque les gens hésitent à se rendre à leur travail, ou lorsqu'on leur interdit, l'activité s'effondre. Mais les épisodes de confinement amputent également la consommation. Certains secteurs d'activité ont été plus touchés que d'autres, on le sait, comme le tourisme, la restauration, l'entertainment. Ce qu'on a moins pris en compte, ce sont les effets du ralentissement des échanges mondiaux sur des économies fortement dépendantes de la demande extérieure. Certains pays ont mobilisé des ressources financières inimaginables en temps de paix pour éviter les faillites en chaîne de leurs entreprises et assurer la continuité des revenus de leurs citoyens. Le plus souvent, faute de ressources financières, ces États déjà lourdement endettés, comme les États-Unis ou la France, doivent compter sur les fameuses mesures exceptionnelles décidées par les banques centrales décidément bien complaisantes. Mais comme le relèvent sur Project Syndicate deux Français, Bertrand Badré et Aurélie Jean, la Fed américaine en particulier ne pourra pas indéfiniment racheter des actifs à hauteur, tenez-vous bien, de 2 milliards de dollars en moyenne toutes les heures, comme c'est le cas aujourd'hui, tout en maintenant les taux d'intérêt à zéro. À un moment ou à un autre, les acteurs économiques vont perdre confiance et l'inflation va se déchaîner.
D'autant, Brice, qu'il souligne que cela a eu pour effet de faire encore grimper le cours des actions au moment même où l'attractivité économique ralentissait spectaculairement.
Et oui, parce que le déphasage entre, d'un côté, si vous voulez, les chiffres d'affaires et puis de l'autre, la valeur capitalistique de nombre de sociétés est devenu purement extravagant. Il permet à un petit nombre de spéculateurs de s'enrichir, tandis que le chômage va faire baisser les revenus du plus grand nombre. Dans un contexte politique marqué par la perte de confiance envers les élites politiques, comme en celle de l'expertise, cela risque de produire des effets désastreux pour la démocratie elle-même. Alors que peuvent les politiques pour favoriser une reprise en V de la croissance? La plupart des experts estiment à présent que le confinement général, tel qu'il a été imposé dans la plupart des pays d'Europe ce printemps, n'est pas la panacée. Et l'on reparle du modèle suédois, où malgré l'absence de confinement, le nombre de décès dus au Covid par million d'habitants est inférieur à celui de pays qui ont pratiqué un tel confinement, comme l'Espagne, la Belgique ou le Royaume-Uni. Les leaders européens sont aujourd'hui davantage enclins à miser sur des confinements limités, comme on le fait en Allemagne ou en Grande-Bretagne, et surtout sur la maturité des populations. Les gens mesurent mieux ce qui est en jeu, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Ils réagissent en conséquence en adoptant les mesures qui s'imposent. On les connaît, le port du masque dans les lieux publics, les transports collectifs, les lieux de travail, la distanciation sociale dans la rue, la limitation des rassemblements. Mais surtout, comme c'est le cas en Suède, en travaillant depuis son domicile chaque fois que c'est possible. Ricardo Haussmann recommande la création d'un passeport de santé qui serait reconnu de manière internationale. Il permettrait de renouer progressivement avec l'ouverture des frontières aux touristes. Mais ce qui sera déterminant pour le redémarrage des économies, ce sera bien entendu la disponibilité d'un vaccin contre la Covid-19. Barry Eichengreen estime qu'un tel vaccin pourrait être disponible aux USA dès la fin du mois d'octobre. Pour des raisons électorales, ce serait un formidable atout pour Trump. Mais ce serait aussi prématuré, car les essais ne sont pas terminés. Or, un mauvais vaccin, prévient Eichengreen, rendu disponible prématurément, contribuerait beaucoup au climat de suspicion qui fait le lit du populisme. On n'en sort pas.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On vous retrouve demain Brice, mais dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.